17h13, nouvelle de dernière minute, on apprend le décès d'une très grande actrice qui était d'une versatilité incroyable parce que c'est le genre de grande actrice qui aurait pu se prendre au sérieux, mais qui faisait exactement l'inverse.
Sophie Fauché, dont le décès a été annoncé par son agence et a décédé à l'âge de 68 ans, entourée de ses proches, des suites d'une longue maladie. Puis c'est la presse qui nous donne un petit peu plus de détails. Elle avait combattu un premier cancer au milieu des années 2010. Puis au début de l'année, semble-t-il que son état de santé s'est détérioré et que le cancer est apparu de nouveau. Elle devait jouer dans la pièce Le Duplex cet été, mais elle a dû se retirer. Mais cette femme-là m'a tellement toujours fascinée, puisque nous, jeunes, on l'a connue comme une actrice vraiment sérieuse. Là.
Oui.
C'est avec un parler absolument impeccable. Puis après ça, on s'est rendu compte qu'elle pouvait être drôle. Mais fucking drôle.
Mais c'est parce que quelqu'un qui n'est pas supposé d'être drôle, qui est drôle, c'est plus drôle que quelqu'un qui est drôle.
Essaie d'être drôle, ouais.
Ou même quelqu'un qui est drôle par nature. Là, ouais. Louis-José Hood est drôle, c'est sa job. Mais Sophie Fauché, quand on la voyait dans Le cœur a ses raisons, ou qu'on la voyait dans Ding et Dong, le film, le fait que c'était une grande dame et une grande actrice qui devenait, écoute, puissante à quel point elle était drôle. Là.
Elle a même été là pour ma génération. Tu sais, tout ce qui est Ramdam, Radio Enfer, Vrac la vie,
elle a joué là-dedans. Oh, ouais. Tabarnouche.
Fait que c'est particulier comment ça a été. Ben, elle était partout.
Parce que, tu sais, il y a bien des acteurs et des actrices de ce niveau-là qui auraient refusé de s'abaisser à faire de la comédie ou de juste, tu sais, focusser sur des rôles sérieux. Mais elle, non seulement elle le faisait, mais elle le faisait puis elle avait un naturel fou, là.
Un naturel fou. Quand elle faisait le rôle de Crystal Bouvier-Montgomery, sa face n'était pas très naturelle.
Hey, essaye d'acter avec ce face-là, toi.
Ah non, ça m'a fait un petit quelque chose. T'es 68 ans, c'est jeune. C'est, puis elle n'avait pas fini, elle continuait à jouer, elle a continué à faire de la télé bien en masse, elle a fait des films dans les dernières années aussi.
Elle faisait le rôle de Sarah Bédard dans Ding et Dong. Le film, ouais. C'était quelque chose. Elle, c'est malheureux, elle était encore ravissante à l'âge de 68 ans. Là, je viens de voir les photos passer. Donc, décès de Sophie Fauché, c'est le cancer.
Il semble-t-il, oui.
OK. Elle était malade depuis quelques temps déjà. Il est 5h15. C'est l'heure des finances.
Hey, kids! Vous êtes prêts pour votre leçon de finances et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Legault.
Il est de retour de vacances où il a fait le tour du monde, là, de ce que je comprends.
Exact,
t'as été hyper actif.
Ah oh, oui, Beauport.
Les Moiloux.
L'atelier.
Les contrées lointaines de Cap-Rouge.
Non, je me suis pas rendu là.
Ah, OK. Ouais,
mais on a déjà parlé. Moi, c'est bien rare que je sors de Limoiloux. Je me perds.
Encore? OK.
Je suis né ici, mais là, on est à Le Bourgneuf. Là. Si tu me dis, Alex, amène-nous à Loretteville.
T'es pas capable.
Je sais pas, je peux pas.
Mais voyons, mais t'as livré du Uber Eats.
Ouais, mais il y a le GPS, là. Mais moi, je te dis sans GPS.
Ça devait être froid.
Mais on me dit que pour un gars qui se perd, dans certaines circonstances, t'es capable de marcher puis de retrouver ton point de départ quand même assez facilement.
Oui, mais ça, c'est avec mes pouvoirs qui se déclenchent seulement après 12 coronas.
C'est un pouvoir qui se déclenche avec l'alcoolémie.
Exactement.
Alex Leblond, planificateur. Wow! Encore aujourd'hui. Va falloir apprendre.
Je vais nous faire crever.
Ouais, désolé.
C'est comme la crise de cœur de 17h17 tous les jours.
C'est l'obus à Valcartier, là. Ils viennent de le sauter.
Mais je pense que ça fait pas longtemps que tu opères des consoles de radio.
Non, c'est nouveau.
Il y a genre 3 semaines d'expérience.
C'est ça.
C'est de la faute du fédéral, Alex. Oui. Alex Leblond, planificateur financier. On va parler aujourd'hui du monde du courtage immobilier parce que ça brasse.
Ouais.
Puis en même temps, ça brasse-tu? Le fait que ça brasse, est-ce que c'est un problème en soi?
Ben, je trouve ça intéressant parce qu'en fin de semaine, hier matin, la presse a publié un gros dossier par rapport à ça. Là. 3 articles sur lesquels Journal de Québec, Journal de Montréal ont renchéri. En gros, t'as un courtier, un type qui s'appelle Rémi Chapadeau.
Chapadeau.
Ouais, okay. Exact. C'est pas très commun, mais non. Rémi Chapadeau, lui, c'est un ancien courtier, OK? Puis, en fait, ancien courtier, il était courtier jusqu'au 3 juin 2026. Là. Il vient de laisser tomber sa licence.
Ça fait 6 jours qu'il est retraité?
Ben, ouais. Lui, dans le fond, c'était un avocat de formation, qu'il a toujours été passionné par l'immobilier. Fait que quand il a pris sa retraite, puis en plus, je pense que c'était un avocat au fédéral, pour le gouvernement fédéral. Fait que quand il a pris sa retraite, il s'est dit, ah, crime, j'ai toujours aimé l'immobilier, je vais aller là-dedans. Puis il s'est rendu compte que l'industrie qu'il avait imaginée dans sa tête, puis l'industrie dans laquelle il est allé se pitcher, c'était pas exactement la même chose. Puis lui, ce qu'il dit, c'est, bon, il dénonce les pratiques de l'industrie, il dit que les commissions reliées au pourcentage du montant de la vente
oui.
viennent carrément donner des incitatifs, disons...
C'est un gars qui est frustré de ce qu'il a vu? Ou c'est vraiment un système qui est problématique dans sa lecture?
Ben lui, ça semble pas pécunier parce qu'il y a un gars qui a été avocat au fédéral. Mmh. Tu sais, il travaillait pour le fun. Là. Ultimement, c'était ça. Lui, ce qu'il dit en gros, c'est que si tu regardes le marché immobilier, là, on a parlé combien de fois au cours des dernières années de l'explosion des prix.
Ben oui.
Tu sais, une unifamiliale au Québec, là, en 2019, le prix médian, c'est-à-dire la moitié se vendait plus que ça, la moitié se vendait moins que ça, c'était 260 000. Maintenant, c'est 511 000.
Puis c'est pas fini dans la région de Québec, entre autres.
C'est pas fini dans la région de Québec. Puis lui, son argument, c'est que hey, ben si le courtier se prend une commission de 4 %, ben ça veut dire que ben si elle se vendait 260, elle se vend 511, lui charge encore 4 %, ben sa rémunération a essentiellement doublé pendant cette période-là, en 6 ans, sans nécessairement que son niveau de travail ou son nombre d'heures augmente de façon significative.
Est-ce que le courtier a une incidence sur le marché à la hausse ou c'est d'étirer l'élastique un peu? Parce que moi, j'ai toujours pensé que ça fonctionnait avec l'offre et la demande.
Oui, puis ultimement, là, je suis encore à l'étape où je rapporte ses propos. Là. Fait que, lui, ce sont les critiques qu'il fait par rapport
ouais.
à l'industrie.
Ouais.
Il parle entre autres de l'espèce de conflit d'intérêts qu'il y a. Admettons que le vendeur de la maison est représenté par un courtier, puis l'acheteur est représenté par un courtier aussi.
Mm-hmm.
Ben, comment ça fonctionne, la rémune? C'est que le courtier du vendeur, mettons que lui, il charge 4 %, ben, il va prendre la moitié de sa com, fait que 2 %, puis il va rémunérer le courtier de l'acheteur. T'sais. Fait que lui, il dit, hey, il y a un conflit d'intérêts là-dedans.
Les
là, parce que...
deux ont intérêt à ce que la valeur de la maison soit élevée.
Exactement. Il n'y a ouais. personne là-dedans, dans les professionnels impliqués, qui a intérêt à ce qu'il y ait un deal dans l'histoire. Mmh. Là. Fait que ça, c'était ses critiques. Qui...
Est-ce que ça fonctionne comme ça ailleurs aussi? Ou
Ailleurs, tu veux dire dans d'autres juridictions?
Ouais.
Oui. Oui, dis-toi que Remax, là, c'est une compagnie qui est présente partout sur la planète. Le modèle de rémunération, oui, va varier d'une place à l'autre un petit peu, mais la base reste la même. Le
okay.
pourcentage vraiment basé sur la valeur de la transaction, c'est le même principe que le tip au restaurant, c'est le même principe que les frais de gestion sur des placements. Si je m'en vais manger au Saint-Hubert à soir ou si je m'en vais manger à Tanière, mais les deux serveurs, ils mettent le même nombre d'heures, mm-hmm. ils travaillent à peu près de la même manière, mais il y en a un qui va avoir un type beaucoup plus gros que l'autre. C'est
basé sur
le pourcentage de ma facture. Mm-hmm. Fait que lui dit, hey, peut-être que ça devrait plutôt être des montants fixes, dénonce une espèce de manque de transparence là-dedans.
Est-ce que... Ouais. Je comprends le point de base, mais moi, ce que j'essaie de comprendre, puis c'est pas un marché que je connais, mais est-ce que les courtiers sont responsables du fait que la valeur médiane de l'unifamiliale ait quasiment doublé en dedans de 5 ans?
Non, le courtier n'est pas responsable de ça, puis c'est pour ça que moi, sur cet argument-là, j'ai un peu de la misère avec, tu sais, oui, si la maison se vend plus cher, le courtier va faire une plus grosse com, là. Mais être payé au pourcentage, ça va d'un bord puis de l'autre. T'sais. Les courtiers présentement qui travaillent dans un marché comme Toronto, où les valeurs sont en train de s'effondrer, mm-hmm. particulièrement dans le condo, crime, ce qui se vendait 1 million se vend 500 000, ben, eux autres sont payés à pourcentage. Fait qu'ultimement, leur paye est deux fois moins grande qu'elle était
sont condamnés à suivre le marché.
Exactement. Fait que quand tu es payé à pourcentage, c'est la notion de risque. Tu prends un risque beaucoup plus grand que le salarié. Fait que quand ça va bien, tu vas avoir une récompense pour ça. Puis quand ça va moins bien, bien tu vas manger tes bas.
Encore plus quand tu vends du haut de gamme, on s'entend-tu qu'une maison à 1 million, ça partira pas aussi vite sur le marché qu'une maison à 250 000? Fait qu'au courant d'une année, t'as bien beau être rémunéré au pourcentage, ça veut pas dire qu'au bout du compte, tu vas être si gagnant que ça non plus. Là.
Non, puis des fois, on regarde les commissions, puis c'est 10 000, 12 000, puis on pense que le courtier, il vend 15 maisons par semaine. Là. C'est pas tout à fait ça. Là. Le nombre de transactions moyennes par courtier au Québec est extrêmement faible. Puis si tu regardes le salaire médian des courtiers au Québec, là, c'est toujours dur de trouver des bonnes données par rapport à ça, okay? Mm-hmm. Parce que la majorité d'entre eux exercent de manière autonome, là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un salaire. Ça va vraiment dépendre des transactions qu'ils font. Le salaire médian, c'est 124 000. Ça veut dire que la moitié sont au-dessus, la moitié sont en dessous. On s'entend, là, on a tendance à penser... oui, il y en a qui s'exposent avec leur Lamborghini, puis ils ne représentent pas la profession. Puis moi, si tu me demandes, ça a l'air gros, 124 000, là, mais je ne sais pas si vous en avez dans votre entourage des courtiers immobiliers, là. Tu me donnerais 500 000 piastres, je ne ferais pas ce job-là. Dans ma tête, c'est plus. Le pire mode de vie. Hey, écoute, il n'y aurait pas. Je suis comme, avec, pauvre, toi.
T'sais, vous haïssez ça, Marketplace? Câlin, là. Est-ce que ce système est encore disponible? Là? Imaginez ça, là, c'est leur journée au complet, mais à faire visiter des maisons.
C'est tellement un bon exemple, Véro, là. Je vends la pire. Je vends un micro-ondes, puis j'ai le goût de me tremper la tête dans l'acide.
Je suis comme toi.
Imagine vendre des maisons à longueur. Et je regarde 124 000 de revenus médians. Je suis comme, écoute, je le ferai pas.
Ah non, c'est une vocation. Je pense qu'il faut vraiment que tu aimes ça.
Mais passer par un courtier, t'es pas obligé de faire ça.
Ben, c'est pour ça que moi, mon opinion là-dessus, c'est on aurait un problème si tu dépendais du courtier pour n'importe quelle transaction. T'sais, si tu n'avais pas le choix de la payer, la com, là, ben assurément que là, on aurait un problème.
Comme un notaire, mettons. T'sais, des fois, tu n'as pas le choix. Fait que tu passes par un notaire.
Là, tu n'as pas le choix.
Ouais.
Le courtier, ça me fait rire un petit peu dans cette espèce de débat-là. Puis oui, il y a l'histoire du courtier-vendeur criminant le courtier-acheteur. Moi, je trouve qu'il y a un aspect problématique là-dedans. Mm-hmm. Okay, mais pour la com, à proprement dit, si toi, là, écoute, tu te lèves le matin pour aller les courtiers, là. Prends pas de courtier. Tu sais, il y a personne qui apprend dans le journal La Presse hier en se levant que Duproprio existe. Là.
Non.
N'importe quel adulte avec plus que 25 de quotient intellectuel au Québec connaît l'existence de Duproprio. Fait que le marché fonctionne ultimement. Tu as le choix. Si tu veux te débarrasser de ça parce que tu as peur de faire une erreur ou tu vas acheter la paix, ben crème, il y a une industrie au complet qui est là pour te servir. Si toi, ce que tu veux, c'est sauver la com de 10, 15, 20 000, Duproprio est là pour toi. Puis là, en plus, depuis un an, il y a une nouvelle plateforme là, qui a fait scandale beaucoup qui s'appelle Youbi. C'est la famille Abatiello qui a mis de l'argent pas mal là-dedans, là, qui, elle, essentiellement, va être la solution.
Ça, c'est les gens qui ont Salvatore qui veulent devenir des influenceurs, là?
Ben, entre autres, là.
Ouais. Aussi, c'est quoi les shakers qui ont acheté? Elles sont partout, là.
Oui, je suis allé au Salvatore à midi.
Ah ouais, hein?
Ouais.
T'as pris quoi?
Pizza à volonté.
Mm.
OK. Mm. T'es-tu allé avec un jeune enfant puis on t'a demandé de quitter à la fin de ton repas ou non? OK.
Tu sais, Youbi va être l'espèce de solution mitoyenne entre les deux parce que, mettons que toi, tu as une transaction à faire, ben ils vont mettre un paquet de coursiers en compétition les uns contre les autres. Puis comme dans n'importe quel marché, s'il y a trois personnes qui se battent pour avoir ta business, ben le prix moyen va diminuer. Fait que tu as comme trois alternatives présentement qui, dépendamment de qu'est-ce que tu veux à titre de consommateur, tu vas assurément fitter dans une de ces trois cases-là.
Parce qu'il n'y a personne qui a les mêmes besoins. T'sais, il y en a qui ont la patience de toutes les éplucher.
Puis il y en a qui ne l'ont pas.
Puis il y en a qui ne l'ont pas. Puis il y en a qui cherchent quelque chose de précis. Puis qu'à un moment donné, tu te perds à travers tout ça. Fait que puis... c'est pour ça qu'il y a des experts qui existent. Là.
Puis ça a un prix aussi quelqu'un fasse la job sale à ta place. Mais en même temps, est-ce que le courtier travaille pour son client ou il travaille pour sa poche? Tu vas me dire les deux.
Ben, c'est comme dans...
Il y a une question de réputation là-dedans. Tu n'as pas le choix de travailler pour ton client.
Oui, puis ultimement, c'est exactement ça. Tu as, oui, je sais pas, il y a combien de milliers de courtiers au Québec. Y a-tu des rapaces au travers? Assurément.
Sûrement.
Comme il y a des rapaces en radio, puis dans les journaux, puis il y a le building là, je sais pas c'est quoi, mais je suis sûr qu'il y a deux, trois rapaces là-dedans. <T'sais>...
Attention, c'est la sac!
Oh, oh, il a une maudite gang! T'as pas pris le bon building, là! Celui-là, il pique les autres.
Le
OK, c'est bon, oui.
Fait que tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Si t'as 20 000 personnes qui détiennent un permis, assurément qu'il va en avoir là-dedans qui nuisent à la profession, mais Véro, t'as un bon point. Pour avoir une longue carrière dans n'importe quel domaine, il faut que tu traites ta clientèle de façon appropriée. Là. Parce que sinon, tu vas avoir de très courtes relations avec tes clients. Mm. Ils ne reviendront jamais. Puis en immobilier, c'est quoi? La croissance de ta business, ce sont les références.
Oui.
Tu es condamné à donner du bon service.
Puis quand on reçoit un bon service, peu importe le type d'industrie, on devient un peu « preacher ». On a donc bien le goût de le dire que hey, ça a tellement bien été, puis ça a tellement été le fun, puis ça a tellement été facile. Je pense que c'est encore plus vrai dans une maison.
Puis à l'inverse, tu veux pas te ramasser sur la page Spotted courtier de marde.
Ça existe, ça?
Vraisemblablement. J'ai pas vérifié, là, mais je vais présumer que oui.
Mais tu sais, ce que je trouve intéressant là, par rapport aux chiffres, là, je suis allé voir il y a combien, parce qu'on disait, tout le monde le sait, là, je vends ma maison, je peux prendre un courtier ou je peux prendre Duproprio. Personne ne l'apprend. j'étais allé voir le nombre de propriétés sur Duproprio, puis le nombre de propriétés sur Centris,
okay,
qui naturellement sont celles où on est représenté par un courtier.
Le reste de la balance, finalement.
Ouais, tu as 7697 propriétés qui sont sur Duproprio, fait que où les gens font leurs affaires par eux-mêmes, puis 50 135 sur Centris. C'est okay. presque 7 fois plus.
Ouais.
Fait que qu'est-ce que ça te dit, ça? Ça te dit, OK, il y a un couple qui est en train d'essayer de vendre sa maison, il regarde ça, puis il se dit, oh, ouais, c'est pas mal le plus gros move financier qu'on va faire dans toute notre vie. Le 10 000 ou le 15 000 ou le 20 000 que ça va nous coûter, ils regardent ça puis ils se disent « c'est un faible coût pour éviter de faire aussi l'erreur de notre vie
mm-hmm. ».
Il y en a qui se disent « je vais le faire par moi-même ». Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison. En placement, on vit la même affaire dans mon industrie. Il y en a qui veulent faire par eux-mêmes sur Wealthsimple, sur Questrade. Fais-le, c'est bien parfait. Puis il y en a qui se disent « ouais ». Ma retraite, j'ai pas tant envie de faire des erreurs dedans. Je vais mandater un professionnel pour le faire.
Moi, je me connais assez pour savoir que si j'ai une maison à vendre, je ferai pas ça tout seul.
Ouais.
Je considère pas que j'ai l'autonomie ou les connaissances ou le bagage nécessaire. Je vais me trouver un courtier de confiance, puis je vais essayer de lui dire clairement de quoi j'ai besoin, puis qu'est-ce que je veux, puis comment est-ce que... Tu sais, j'ai ce besoin-là. Je serais pas capable de passer par Duproprio. Je me sens pas capable
de
faire ça.
Puis toi, gérer les rendez-vous.
Non, non, tu comprends très bien. Tu me connais bien. Là, il y en a qui nous écrivent, Alex, pour dire « Ouais, ça prend combien d'années d'études pour être courtier, là, puis faire quand même de très bons salaires? Ça prend-tu une formation en particulier? »
Ça, c'est un des points qui est amené par le gars dont, de qui on parlait tantôt, là, Rémi Chapadeau. Lui dit
celui-là qui a parti le feu, là.
Oui, exactement. Lui, il dit que c'est trop facile d'avoir le permis pour être courtier immobilier.
C'est quoi, c'est un an de formation?
Ben, tu vois, c'est 660 heures de cours passer l'examen de l'OACQ, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Après ça, naturellement, tu as les exigences de formation continue et tout ça, là, comme n'importe quand, quand tu as un permis, ça te prend la formation continue, là. Lui, ce qu'il propose, c'est que ça prendrait au minimum un deck de 3 ans. La logique de ça, c'est que, hey, tu vas poser des actions qui auront un impact majeur dans la vie des gens. Ce serait le fun que tu aies été formé en conséquence. Là-dessus, honnêtement, j'ai pas assez de connaissances.
Ouais, moi non plus. Puis, tu sais, dans un deck, on s'entend-tu même quand tu fais une technique? Denis, t'as fait combien d'heures de cours qui portaient sa radio sur l'ensemble de ton cours collégial?
J'en ai fait beaucoup, par exemple.
Oui, mais tu sais, t'as quand même tous les cours à option, les cours de français, les cours de philo.
De mémoire, la deuxième année du programme de 3 ans, c'est 50-50, puis la troisième année, tu passes à 80-20 ou 70-30 à peu près.
Tu gères pas des budgets puis des maisons, c'est vrai.
Non, non, je gère pas grand-chose. Je gère même pas ma propre console, là, la moitié du temps, vous l'avez
vu. Une partie de ton émission seulement.
Ouais.
Une affaire là-dedans, puis je fais un parallèle avec mon industrie, puis tu sais, on a déjà parlé des titres dans mon industrie de finance. Tu sais, t'as le titre de conseiller en sécurité financière qui te permet de vendre de l'assurance. C'est le titre de représentant d'épargne collective qui permet de faire du placement. Puis un planificateur financier,
peut faire de la radio.
Exactement.
Oui.
Ça prend beaucoup. Fait que tu sais, lui, il est spécialiste dans 7 champs d'expertise. Puis le titre de planificateur financier, pourquoi il est vu comme étant plus luxueux, entre gros guillemets, c'est qu'il est foutument dur à aller chercher.
Mm.
Tu sais, ça te prend au minimum un bac, ça te prend une formation de l'Institut de planification financière en plus. Le taux de réussite à l'examen est misérable. Fait qu'une fois que tu l'as, ce permis-là, ben t'es capable de dire, hey, OK, là, le consommateur comprend que tu as passé à travers un chemin quand même assez difficile pour te rendre là. Moi, j'aimerais ça des fois que le permis que j'ai eu en assurance puis le permis que j'ai eu en placement est un petit peu plus difficile à aller chercher.
Okay.
Pourquoi? Parce que ça rehausse la vision que le public a de ton industrie. Si, puis là, je dis pas que c'est le cas ici ou ailleurs, mais je fais une image, là. Si le permis, t'es capable d'aller chercher dans une boîte de Frosted Flakes, il vaut rien le permis. Alors que si tout le monde, tu sais, un CPA, là, tout le monde sait que, écoute, c'est un bordel aller chercher ce titre-là.
Fait que quand tu le mérites quand tu l'as.
Hey, quand je vois quelqu'un qui a le titre de CPA, je suis comme, OK, ce gars-là ou ce fait-là, il est sérieux. T'sais. Pourquoi?
Ouais.
Parce que je sais que le chemin pour aller chercher le titre, c'est super complexe.
Alex Leblon, la question qui tue.
Vas-y.
Si ça avait été plus difficile d'obtenir ton permis, tu ferais-tu encore de la radio? T'es un excellent planificateur financier.
Merci, j'essaye.
T'es un excellent vulgarisateur financier aussi.
J'essaye.
T'essayes?
Ouais.
Ça va bien.
Merci.
Ça va bien. Là, on a une alerte rouge. Tu permets qu'on interrompe cette chronique parce que on a eu un texto super dangereux. Deux véhicules arrêtés dans la voie de gauche, Laurentienne Nord. Les madames sont sorties de leur auto à la hauteur Amel.
C'est pas le best, hein?
Non, vraiment pas. Puis dans ce bout-là, je pense qu'il y a une curve qui est un peu méchante. Je pense qu'on perd une voix
c'est
aussi
après
là, dans une sortie.
La Croix-Rouge, là? Oh, ouais.
Jamais sortir de son char sur une autoroute. Genre jamais. Même pour faire traverser des petits cantons. Même
surtout
pour
voie de gauche, là,
non,
c'est comme... C'est
non.
Particulièrement dangereux. Là.
Jamais, comme dirait Corias. Fait que, bon, engueulez-les pas, là, mais peut-être leur demander... quoi
non,
que...
arrêtez pas, continuez.
Ouais,
faites juste pas y frapper.
C'est ça, faites juste attention pour pas les ramasser.
À 90 km/h, tu peux baisser ta fenêtre. Rentrez dans vos...
Non, les policiers vont s'occuper de leur dire que ça se fait pas, je
pense. Ouais, si c'est pas déjà réglé, mais sachez-le. Donc, Laurentienne-Nord, à la hauteur de Hamel, il y a deux voitures parquées avec du monde dehors à un endroit où ils devraient vraiment, mais alors là, vraiment pas le faire.
D'ailleurs, tantôt, il y a des gens qui nous ont écrit en disant que dans le secteur de Beauport, il y avait plusieurs voitures de police, puis on se demandait ce que c'était. Vol qualifié dans une bijouterie du Carrefour Beauport cet après-midi. Okay. Ça a déclenché une large opération policière. Le Soleil nous l'apprend. Puis il y a une opération qui est en cours pour retrouver le suspect. Il s'est présenté vers 14h, donc sur la rue du Carrefour, vous comprendrez. Personne n'a été blessé, mais il y a des objets de valeur qui ont été dérobés. Donc pour l'instant, il n'est toujours pas localisé. Fait que c'est pour ça que vous voyez beaucoup de policiers. On est en train de faire du ratissage, le maître chien, qui a été demandé sur place.
Un gros merci, Alex.
Merci.
Alex Leblond, planificateur financier. De retour avec nous, 17h34, courte pause, on revient.
Avant même le podcast,